Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïque à Strasbourg. Aujourd'hui, notre invitée est Chantal Milman. Elle a écrit un roman qui s'appelle « Preuve d'amitié » aux éditions L'Écriture. Bonjour Chantal Milman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Parlez-moi
Merci
un peu. Parlez-moi un peu de Mylène, l'héroïne de votre roman. Qui est-elle ?
Mylène, c'est une jeune fille qui va être confrontée à la suite d'un accident domestique à une remise en question de toute sa vie parce qu'elle va être atteinte, elle va être blessée. Et comme elle vient juste d'avoir son baccalauréat, toute sa vie de jeune femme va être bouleversée et perturbée avec ça.
Alors, Mylène, il faut le savoir, elle a une maman qui est africaine, un papa qui est juif et qui a perdu toute sa famille pendant la Shoah.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est que Mylène, tout au long de l'ouvrage, dit « je suis africaine et juive », donc elle porte ces deux cultures de façon forte.
Oui, et puis elle porte cette douleur aussi. Parce que ce soit pour sa mère ou pour son père, elle sait qu'il y a une difficulté à être acceptée. Donc elle fait ce trajet-là et elle le fait par le cœur. C'est par l'attachement à ses parents qu'elle appréhende, qu'elle embrasse et qu'elle vit ce qui est leur identité et donc la sienne.
Alors quand on raconte l'histoire au début, donc sa maman a une petite maladie, elle est plutôt pyromane. Le papa, lui, est très proche de sa fille. Et l'histoire, on va raconter un peu. Mylène, vous l'avez dit, a eu un accident un peu avant ses 18 ans, lors d'une fête d'anniversaire.
Non, c'est pas la fête d'anniversaire.
Ah, alors ?
C'est ce que son père lui avait promis. Elle a eu son baccalauréat.
Oui, elle fait une fête.
Et il lui a promis que si elle avait son baccalauréat, eh ben, elle pourrait faire une boum chez elle et que les parents ne seraient pas là. Donc, elle fait sa boum.
Elle fait sa boum et le feu prend. Et elle est donc à l'hôpital. Est-ce qu'à votre avis, cette Mylène avait dans l'idée d'avoir dans le gène de sa mère pyromane ou c'était un accident ?
C'est un accident et on voit surtout par la suite qu'il ne s'agit pas d'une maladie pour la mère. Il s'agit d'une sorte d'aveuglement, d'une difficulté, comme on en a tous. Mais elle n'est pas malade d'être pyromane. On ne pourrait pas dire d'elle qu'elle est pyromane comme les gens qui le sont. Elle n'est pas malade. Elle a une histoire et cette histoire, de temps en temps, vient la troubler. Et quand cette histoire la trouble, eh ben, elle s'oublie et parfois elle oublie le feu sous les mets qu'elle prépare. C'est ça qui lui arrive. Mais c'est spectaculaire.
Oui, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est la relation qu'a Mylène avec son père, qui est une relation qu'on qualifierait de comment ?
Oh, d'une confiance... d'amour. Si vous voulez, quand on dit amour, ça recouvre beaucoup de choses, mais elle est surtout en confiance avec son père. Elle est en confiance avec lui... parce qu'elle partage avec lui des tas de choses. Il la suit dans ses études, alors que sa mère s'en exclut un peu toute seule. Sa mère est plus rigoureuse, plus rigide. Elle ne s'autorise pas à avoir une opinion, si vous voulez. Alors, le père, lui, l'accompagne.
Il faut aussi savoir que la famille dont est issue Mylène est une famille avec des frères et des sœurs qu'elle ne connaît pratiquement pas, qui ne l'aiment pas, en l'occurrence.
Voilà, oui. Ça, elle les connaît un peu, mais oui, il y a une coupure affective très forte, oui, absolument.
Ça aussi, ça joue dans le rôle de Mylène de s'approcher plus de son père que de sa mère, ou pas ?
Oui, certainement. Certainement, absolument.
Alors, il y a des histoires, évidemment. Aussi, il y a un deuxième mot qui est très fort dans votre livre, en tout cas qui en ressort, c'est l'abondant. La solitude, on a l'impression que Mylène est omnibulée par cet abandon ou cette solitude. Je me trompe ?
Mais oui, j'allais vous dire comme nous tous.
Ouais, mais elle particulièrement.
Oui, elle est, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort qui est que tout de même, les frères et les sœurs sont repartis en Afrique et que sa mère le vit très mal. Elle en souffre de ne plus avoir ses enfants et son père aussi. Donc elle se sent un peu responsable. Elle se sent irresponsable et elle a peur d'être abandonnée.
D'accord. Alors elle est, et en plus, ce sentiment d'abandon, on va dire, est encore plus fort après l'accident qu'elle a eu.
Oui, parce que c'est difficile à porter. Un accident comme celui-là, c'est dur.
Alors, il y a
une jeune fille. Oui.
Oui, alors il y a des histoires d'amour. On va pas trop y rester, mais surtout des histoires d'amitié avec ses copains, Slavika ou bien David. Pour elle, ses copains, c'est plus que l'amour. Ça fait partie de sa vie totale.
C'est sa famille choisie. C'est celle avec laquelle elle se sent totalement acceptée. Il n'y a pas de risque d'abandon avec les amis. Et pour Mylène, c'est fondamental. Ils ne l'abandonneront pas. D'ailleurs, David ne l'abandonne pas.
Oui, tout à fait. David qui est, on va dire, un ami de Mylène depuis très très longtemps. Et pourquoi ils ne se marient pas d'ailleurs, tous les deux?
Ça sera peut-être un autre livre.
Ouais, d'accord. Alors, on attendra le prochain livre. Parce que c'est vraiment une histoire d'amour, d'amitié, des fois de trahison. Et vraiment. Slavika, par contre, est d'une vraie amie qu'elle a rencontrée à la fac. Elle aussi, qui a quelques déceptions. Et elle a aussi une déception de sa première amie qui s'appelait Kim. Kim était une amie dans son enfance et elle l'a vécu très mal. Le fait qu'elle ne se voit plus, là aussi, c'est l'abandon.
Absolument. Ouais. Absolument. C'est même le premier qu'elle ressent brutalement, même si après elle va l'accepter, mais elle le ressent très brutalement, oui. Absolument, c'est le premier.
Au niveau physique, Mylène, elle est grande, elle est petite, elle est jolie, elle a de longs cheveux. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Oui, elle est jolie, elle est grande. Enfin, j'allais dire normalement grande, elle n'est pas comme les mannequins d'1m80, mais elle est grande. Et oui, elle est jolie, elle est assez délicate, elle a un côté infantile et en même temps très féminin. Et il va falloir qu'elle retrouve son féminin après l'accident.
Alors,
l'infantile reste là.
Alors justement, on va un peu avancer dans l'histoire. Mylène s'en sort, sauf qu'elle a une cicatrice dans le ventre et elle estime que cette cicatrice ne va pas l'aider à trouver un homme. C'est ce qu'elle recherche ? Un homme ?
C'est ce que toute jeune femme recherche, oui, absolument. Une jeune femme a envie d'être désirée, de plaire.
Et elle encore plus.
Oui. Peut-être pas, mais en tous les cas, elle a envie de séduire, elle a envie d'être désirée, absolument. Et elle craint que cette cicatrice l'empêche d'éprouver ça.
Chantal Millman, prof d'amitié, roman, aux éditions d'écriture. Il y a juste quelque chose qui m'a un peu chiffonné dans le livre, c'est qu'on n'a pas la suite de l'histoire. Vous nous arrêtez au milieu.
Et vous avez commencé à l'écrire avec le mariage de Mylène et
David. Oui, d'accord, mais après.
après, c'est du travail.
On est un peu resté dans sa fin. On voulait savoir ce qui se passe avec David, le secret que David a, parce qu'il en a obligatoirement un. On voulait savoir comment ça se finit avec le père de Mylène, qui s'est remarié avec une femme. On voulait savoir ce que devient Mylène.
Non, le père de Mylène meurt.
Meurt, oui, mais il a une histoire d'amour avant de...
Il a une histoire d'amour, mais il ne s'est pas remarié, justement.
D'accord.
Oui.
Et Mylène, qu'est-ce qu'elle devient ?
Ah, vous verrez peut-être.
Alors, est-ce que... Ah, c'est ça. Il y a un deuxième tome qui est prévu ? Il y a une suite ?
Je ne sais pas encore, j'y pense.
Vous pensez ? Est-ce que cette histoire est une histoire que vous avez construite par rapport à une trame vraiment... on va dire imaginaire, ou il y a des éléments que vous avez vécu vous-même ?
Écoutez, je vais vous faire la réponse de Philippe Ross, auquel je ne me compare pas, parce que c'était quand même un écrivain majeur. Mais il disait que dans toute fiction, il y a de soi. Et ça veut dire que vous ne pourriez pas écrire cette histoire, et moi je ne pourrais pas écrire une histoire que vous écririez ou que quelqu'un d'autre écrirait. Bien sûr qu'il y a de moi dans l'expérience ou même dans l'imagination. Mais même dans l'imaginaire, lorsqu'on crée un personnage, mon imaginaire, il est à moi.
Chantal Mouneman, moi c'est toujours une question à la fin des interviews. Oui. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs de la radio pour qu'ils se pressent dans les librairies pour acheter La Preuve d'amitié? Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils achètent votre livre?
Ça, je ne sais pas très bien répondre à ça. En tous les cas, c'est une histoire et les gens qui la lisent, cette histoire, s'y attachent. Donc, c'est une alternative aux nouvelles sur le coronavirus. C'est une bonne alternative.
D'accord. Voilà. Chantal Mouneman, Preuve d'amitié, premier roman aux éditions L'Écriture. Juste un mot, parce que je sais que le média radio, vous le connaissez. Vous avez été créatrice de Radio Nova.
À l'origine, on était trois, absolument. Hein, il y avait Pierre Lattès, Jean-Marc Fonbonne et moi-même.
Et vous en gardez un bon souvenir de cette période radiophonique?
J'adore la radio. Je trouve que c'est formidable. Je trouve que ça, on est vraiment beaucoup moins passif qu'on l'est devant les écrans comme aujourd'hui avec tout ce qui est proposé. J'aime bien la radio et j'aime bien la voix. Je trouve que beaucoup de choses passent dans la voix.
Merci beaucoup Chantal Mouneman.
Merci à vous, d'amitié, merci de m'avoir invité.
Roman à l'écriture. À très très bientôt pour la suite
à bientôt,
du livre.
Au revoir.
Au revoir.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Si drôle, sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle, quelquefois si seul. Parfois elles le veulent, oui, mais si seul, oui, mais si seul.
Notre invitée aujourd'hui est Martine Gauzlan. Elle est journaliste et reporter dans le magazine Marianne. Elle écrit un premier livre qui s'appelle « Le rendez-vous des Gobelins » aux éditions Écriture. Bonjour Martine Gauzlan.
Bonjour. D'abord, ça n'est pas mon premier livre, cher Jean-Pierre.
Premier roman, autant pour moi.
C'est un premier roman. J'ai déjà écrit 12 biographies et essais.
Vous allez voir pourquoi j'ai fait la petite erreur. Vous avez écrit 12 livres sur l'actualité en général aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir romancière pour la première fois ?
Ben, écoutez, on est poussé, ce sont les livres qui nous dictent un petit peu. Hein, c'est pas l'auteur qui choisit son sujet, c'est le sujet qui choisit son auteur. Donc,
Mais d'habitude, vous faites des livres sur l'actualité très documentés, très travaillés. Là, le roman, c'est un peu dans l'imagination.
Ben, d'abord, un roman, c'est aussi documenté, c'est aussi travaillé, c'est aussi de la matière de l'instant, de la matière d'actualité qui se confond avec les souvenirs. Et si vous voulez, mes livres, les 12 livres que j'ai écrits auparavant sont aussi nourris de beaucoup de choses, donc et pas seulement des faits. Ce qui m'a poussé à écrire, en fait. C'est ce que ressent tout écrivain, c'est-à-dire qu'il y a des choses en vous qui ont besoin d'être dites, et j'ai eu envie d'explorer cette espèce de confrontation permanente que chacun de nous, chaque individu a entre le présent, son présent et le passé qui remonte à la surface. Voilà. Et dans le livre, il y a une allégorie. Il y a cette allégorie de la rivière enterrée à Paris, puisque ça se passe à Paris, dans le quartier des Gobelins.
On va y arriver. Moi, je voudrais qu'on essaye, comme on dit dans le cinéma, de faire le pitch. Je vais raconter le début, vous allez m'aider à raconter la suite. Le début, c'est l'histoire d'une journaliste qui va boire un café justement au Gobelin. Et la personne qui tient le café dit à cette journaliste, il y a quelqu'un qui vous attend. Une femme plutôt âgée, pas très bien habillée. Et vous acceptez finalement de discuter avec elle. Qu'est-ce qui se passe après ?
Bah, écoutez, d'abord, c'est la narratrice, c'est une journaliste, elle vit dans le présent, elle vit un présent absolument trépidant, le présent de l'instant, le présent de l'actualité, et il y a une femme...
La journaliste, ça peut être vous ?
Je ne sais pas, la narratrice, tout écrivain met dans ses personnages énormément de lui-même. Donc la question que vous pouvez poser à n'importe quel écrivain, c'est est-ce que c'est vous ?
Oui.
Il vous dira, c'est vous, c'est moi et c'est un autre.
D'accord.
Comme je l'ai un autre. C'est ça la littérature.
Okay.
Donc si vous voulez, il y a ce personnage qui surgit du fond du temps et qui lui dit faire partie de sa famille, c'est-à-dire être le fantôme d'une aïeule dont le destin est resté assez mystérieux dans le récit familial. Et en fait, elle remonte d'une rivière qui existe vraiment, qui est l'autre rivière de Paris. Il n'y a pas que la Seine à Paris.
Ouais.
Il y a la Bièvre, et la Bièvre est une rivière enterrée qui a été comblée dans les années 20.
Oui.
Et cette Bièvre, sur les bords de cette Bièvre, s'activait tout un petit peuple d'artisans, et parmi lesquels des tanneurs, dont certains étaient juifs. Et cette femme... qui a été belle, qui a été resplendissante. Elle vient de cette famille de juifs russes lituaniens, et elle remonte du temps, elle remonte de la rivière enterrée, et elle prend sa descendante par la manche, et elle lui dit « Souviens-toi de moi, parce que les morts ne peuvent exister, ne peuvent avoir de repos éternel que dans le souvenir, que parce qu'on se souvient d'eux. »
Alors, on va pas dévoiler la fin de l'histoire, parce qu'elle est totalement surprenante et très haletante. Il y a un vrai suspense pour savoir la fin de ce livre. On revient à cette histoire. En fait, c'est l'histoire aussi d'une famille qui habite, donc vous l'avez dit, la Lituanie, qui s'en va à cause des pogroms, qui doit arriver en Allemagne finalement. Elle arrive à Paris et on a l'impression que cette famille s'épanouit vraiment à Paris. C'est une impression ou c'est vraiment ce que vous avez voulu expliquer?
C'est l'histoire de tous les Juifs, ça se passe à la fin du 19e siècle. La Lituanie n'est pas la Lituanie, c'est l'Empire russe, donc c'est Kovno, c'est le monde des Litvaks, ce monde d'où est issu notamment le plus grand philosophe juif contemporain, c'est-à-dire Emmanuel Lévinas. C'était des traditionnalistes, c'était aussi des rationalistes. Dans cette famille se propage la légende d'une filiation généalogique avec le Gaon de Vilna.
Ouais.
Et quand cette famille quitte la Russie, quitte Kovno, elle ne choisit pas Paris. Paris lui tombe par hasard parce qu'elle devait partir pour l'Amérique.
Ah.
Et donc, je vais la nommer, c'est la famille Avijansky.
Ouais.
Et Rose, l'héroïne, donc l'aïeule de la narratrice, Rose Avijansky est la plus fragile, la plus sensible des quatre filles Avijansky. Il y a aussi un jeune garçon, ouais, Lev, qui a franchi la frontière quand il avait 3 mois, englouti sous la cape de sa mère parce que le tsar faisait enlever les enfants juifs au berceau pour les faire élever dans des familles chrétiennes et en faire des soldats pour l'armée impériale. Donc quand il arrive à Paris, il ne s'épanouit pas, il travaille comme des fous, comme tous les juifs ont toujours travaillé quand ils étaient obligés de changer de pays. Ils ont travaillé pour regarder la réalité en face. Cette vie à Paris, elle n'est pas exempte de fractures, il n'y a pas d'idéal. Il y a parmi les quatre filles, on a une qui s'en sort beaucoup mieux,
oui,
qui s'appelle Lydie. Je ne dis pas au début, parce que Lydie, elle est plus... chacun survit, chacun s'intègre avec son tempérament.
Ouais.
Rose est plus tendre, elle est plus émotive, elle est plus fragile.
Alors, pour avancer un peu dans l'histoire, Rose va se marier avec Mardochée. Qui lui est originaire d'Algérie, à côté de Gardaïa. Donc vous avez votre héroïne qui est mariée avec un monsieur qui est Mardochée, et là, elle vit une autre vie.
Temple, au carreau du temple, elle rencontre un marchand, un fripier.
Ouais.
Donc son père est tanneur, Yankel Avijansky, qui l'a séduit, dont elle tombe amoureuse. Et elle a besoin d'un destin. Et l'amour, c'est souvent l'amour. Maintenant, les femmes semblent le choisir, elles semblent choisir leur compagnon.
Mmh.
Et Rose finalement se dit que cet homme va la sauver une existence très approximative. Et elle va le suivre donc dans le pays d'où il est issu, l'Algérie, qui était l'Algérie française, et ça se passe sur les hauts plateaux algériens. C'est une petite ville que je connais très bien, qui s'appelle Soukaras, qui n'a rien à voir avec le sud, et qui est une ville encore très très enclavée vers la frontière tunisienne. Et là va se produire le choc entre finalement l'héritière d'une tradition russe lituanienne et cette famille qui n'est pas symptomatique des grandes familles juives d'Alger. C'est une famille juive algérienne de l'intérieur.
Ouais.
De l'intérieur de l'Algérie, extrêmement arabisée. Et là, bien sûr, l'amour est malheureux. L'amour est malheureux parce que, bon, pour des tas de raisons qui sont celles d'un couple, de tous les couples qui ne marchent pas.
Mmh.
Mais l'amour est malheureux aussi parce qu'il y a deux univers qui ne peuvent absolument pas coïncider, coexister. Et l'homme, le mari, est extrêmement jaloux.
Ouais.
Pour lui, une femme, ça se possède, ça se met sous clé. Finalement, il rentre à Paris, et évidemment, si vous voulez, ce que j'ai voulu, franchement, on raconte l'histoire, mais ce qui est intéressant, je pense que ce qui peut intéresser vos auditeurs, c'est que c'est une histoire, encore une fois, où se mélange, où interfère le passé et le présent. Pourquoi la Bièvre ? La Bièvre, c'est une allégorie. Nous avons tous des fleuves enfouis en nous, au fond desquels nous avons peur d'être précipités avec nos fantômes. Et si vous voulez, ce fantôme qui remonte du passé, et dont les lecteurs découvriront l'histoire, elle parle à sa petite fille qui est d'un autre siècle, du siècle des femmes qui ont conquis leur liberté, qui peuvent aimer, travailler, elles ont l'indépendance financière. Ouais. La narratrice, elle vit une vie formidable parce qu'elle l'a choisie et en même temps, elle est sujette à des accès de mélancolie à cause de l'hérédité. Parce que de quoi dépendons-nous ? De quoi dépendons-nous profondément ? Ouais. Est-ce que tous ces disparus que nous avons derrière nous, qu'est-ce qu'ils nous ont légué ? Ce que nous n'avons pas connu. Je ne parle pas de nos parents. Je parle souvent des grands-parents et des arrière-grands-parents. Ouais. Qu'est-ce que nous portons d'eux en nous ? Et le livre, c'est là-dessus. C'est-à-dire, c'est entre deux époques, deux femmes qui s'interfèrent, bien sûr, qui se rencontrent et dont la rencontre est explosive à travers, bien sûr, un univers fantastique. Et en même temps, je raconte la vie d'un journal parce que je le connais bien et c'est ma vie.
C'est justement ça. Alors, dans ce journal, il y a un personnage atypique, c'est le rédacteur en chef. Est-ce que vous avez eu un modèle pour le créer, ce rédacteur en chef ?
On s'inspire toujours. C'est le directeur de la rédaction, le fondateur du journal. On s'inspire toujours des personnages qu'on a croisés et qui vous ont fortement impressionné. Donc, évidemment, comme pour tous mes personnages...
C'est un mélange de Jean Daniel et de Jean-François Kahn, j'ai trouvé.
Écoutez, c'est vous qui le dites. Je n'ai jamais travaillé avec Jean Daniel.
D'accord.
Mais c'est vous qui le dites. Donc, c'est vous qui prononcez les noms. Pour moi, c'est un journaliste qui incarne le meilleur du métier. Un métier souvent décrié, un métier souvent galvaudé. Mais pour moi, le métier de journaliste est vraiment l'un des plus beaux métiers du monde, si on le prend au pied de la lettre, c'est-à-dire on n'en fait pas un exercice mondain, on n'en fait pas un exercice politique, on va se colter à la réalité. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ce que fait la narratrice, elle part en Algérie. Son patron l'envoie en Algérie, et c'est là qu'elle va croiser le fantôme de cet autre aïeul, le juif algérien, le juif des hauts plateaux, et à qui elle va demander des comptes. Donc, si vous voulez, mais c'est une description aussi de l'Algérie d'aujourd'hui, Et c'est une petite ville algérienne. Donc, si vous voulez, bien sûr que je me suis inspirée de la réalité. Il y a un personnage auquel je tiens beaucoup, qui est le camarade algérien qui l'attend en Algérie, qui va lui servir de guide. Et alors là, j'ai donné son vrai prénom, Malik, parce que je l'ai connu. C'est un homme qui s'est colté à l'islamisme, qui a lutté contre l'islamisme en face avec ses propres armes, qui était une caméra et un stylo. Et il est mort de cette coltée à l'islamisme. Il s'appelait Malik Aïtaoudia. Donc il y a deux noms que je prononce aujourd'hui, non pas celui d'un journaliste dont je me suis inspirée, mais celui de l'héroïne, Rose Avijansky, et celui du journaliste algérien qui va la guider à travers ces hauts plateaux algériens qui contiennent beaucoup de secrets. Voilà.
Le rendez-vous des Gobelins, Martine Gozlan aux éditions L'Écriture. Une question un peu annexe. J'ai beaucoup aimé la couverture. La femme qui est sur cette couverture est un mannequin ou c'est une photo
de
famille ?
Non, c'est une photo de famille. C'est une vraie photo de famille.
Elle est très jolie, en tout cas.
Elle est très belle. Elle est très belle. Et je suis heureuse. J'espère que le maximum de lecteurs admireront sa beauté. Et vous avez vu que sur la couverture, il y a un rail qui est mythique pour moi. Elle est toujours vivante. Et je vous répète, les morts ne peuvent reposer en paix que si on se souvient d'eux. Zahor. Voilà.
Zahor, voilà le mot en hébreu. Merci Martine Gozlan d'avoir répondu à nos questions.
Merci, et
de m'avoir dit que j'ai mal lu votre livre. Mais à part ça, tout va bien.
À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.